Libre-échange.
Ravi de vous retrouver comme chaque semaine sur Aswat et tout au long de ce mois de Ramadan, évidemment avec plaisir. L'émission est, comme vous le savez, diffusée plutôt en fin de journée, mais bon, on reçoit toujours un dirigeant d'une entreprise ou d'un secteur d'activité pour faire le tour de sa propre actualité. Notre invité aujourd'hui est David Toledano, qui est président de la Fédération des matériaux de construction. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation, M. Toledano.
Merci à vous et je vous souhaite Ramadan Mubarak Saïd.
Merci
à vous
beaucoup.
Et à tous vos auditeurs.
Merci.
Et à Ebtissam qui est avec nous.
Merci. Et donc Ebtissam Benchenak qui représente la Vieco. Merci Ebtissam d'avoir refait le déplacement à nouveau dans nos studios. Ravi de vous avoir parmi nous. On va faire le tour avec vous de l'actualité de votre secteur. D'abord, est-ce que vous pouvez nous rappeler de manière simple, en quelques chiffres, ce que représente la Fédération des matériaux de construction?
La Fédération des matériaux de construction est constituée de 9 associations, les cimentiers, les céramistes, les briquetiers, les marbriers, le sable qui pose en ce moment, qui est en le centre d'une polémique, le plâtre, les agrégats, et la sidérurgie, voilà. Bien entendu, qui est une association importante.
Tout ça qui sert pour construire des bâtiments.
Absolument.
Faire des routes.
Tout à fait, des infrastructures, de la construction,
des ponts,
du logement, etc.
Évidemment, c'est extrêmement important. Alors, c'est une fédération qui représente évidemment beaucoup d'entreprises, des entreprises qui interviennent dans des secteurs majeurs dans notre pays. Il se trouve que votre fédération, comme le reste des producteurs industriels dans notre pays, sont appelés à un moment donné à changer ou à améliorer leurs normes, puisque l'État, dans le cadre de la loi 2409, appelle à créer un système qui renforce plus le contrôle, reclarifie les normes, oblige les entreprises à peut-être plus d'engagement sur la qualité de leur production selon des normes marocaines. Est-ce que c'est le cas ?
Absolument. Donc, vous venez d'évoquer une loi extrêmement importante, la 2409, qui parle de la sécurité des produits et services qu'on trouve sur les marchés. Et de ce fait, un des éléments importants de la mise en place de cette loi est le marquage des produits que vous allez retrouver, que tous les consommateurs et les utilisateurs vont retrouver sur le marché. Alors évidemment, ces produits doivent répondre à un référentiel précis pour ne pas mettre en péril ni la sécurité, ni la santé, ni la vie des utilisateurs. Voilà un peu, la problématique et la philosophie.
Ça concerne tous les produits.
Absolument, tous les produits.
Tout ce qui est produit et qu'on peut consommer, produits et services aussi.
Absolument, produits et services. Et je vous donne des exemples de produits. Ça peut aller du ciment en passant par l'acier jusqu'au fil de raccordement d'un téléphone, un chargeur avec lesquels aujourd'hui on a beaucoup de problèmes, ou bien des plaquettes de frein, ou bien des chauffe-eau à gaz qui provoquent un certain nombre d'accidents, etc., etc. Donc aujourd'hui, le consommateur est en droit d'être protégé et d'avoir confiance dans un marché dans lesquels il achète, il vit, et l'État a le devoir de protéger donc ce consommateur. Et c'est ce qu'elle fait à travers cette loi 2409.
Ça concerne aussi les produits importés, parce que là, ce sont des lois, c'est une loi qui a vocation à amener la production nationale à respecter au mieux les normes et à le marquer pour que le consommateur soit rassuré. Pour les importateurs, pour ce qu'on importe chez nous,
C'est normal. Vous ne pouvez pas. Vous êtes dans un marché qui est alimenté soit par des productions, une production locale, soit par des importations étrangères, internationales. Donc, le marché doit être contrôlé et le ministère de l'Industrie et du Commerce est en charge de la mise en place de cette loi sur la sécurité, encore une fois, des produits et des services. Donc les produits importés ne peuvent pas déroger et en principe, les produits importés continueront à être non seulement contrôlés en termes de contrôle normatif par rapport aux références qui sont d'aspect obligatoire ou d'aspect facultatif, mais aussi ils devront aussi respecter le marquage qui est un marquage qui s'appelle CMIM, le C pour certifié, et le MIM pour le Maghreb, Donc, si vous voulez, l'histoire du marquage a commencé depuis longtemps en Europe. Il y a eu le marquage NF, norme oui. française, les normes DIN en Allemagne, les normes espagnoles, les normes italiennes,
nous,
etc.
Nous, NM.
Nous avons eu NM et nous les avons encore, nous continuons. Nous avons mis en place l'IMANOR, qui est l'Institut marocain exact. De normalisation, pour précisément accompagner et veiller à la mise en place de ces normes et à leur utilisation. Puis ensuite, en Europe, il y a eu une uniformisation de ces normes sous l'appellation CE.
Donc et c'est à l'échelle de l'Union européenne, oui, à l'échelle de l'ensemble de l'Europe.
Absolument. C'est un passeport pour le produit, pour lui permettre de voyager à travers.
Alors c'est pour ça que l'Europe. Certains produits chinois, par exemple, sont marqués CE, ça veut dire qu'ils sont conformes aux normes européennes.
Tout à fait.
Et qui peuvent être consommés sur les marchés européens.
Absolument, mais il y a un contrôle qui est beaucoup plus important. Et ça, vous avez mis le doigt sur une problématique qui nous importe beaucoup en ce qui nous concerne. Parce qu'aujourd'hui, l'Europe demande au Maroc, dans le cadre de ce qu'on appelle le statut avancé,
oui.
donc, qui est toujours en négociation, d'accepter à ce que certains de nos produits aussi soit en conformité avec les normes CE, qu'on puisse avancer nos normes pour les élever aux normes CE. Sauf que vous venez de faire une remarque qui est extrêmement importante. Beaucoup de pays, notamment la Chine, la Turquie, l'Égypte, pour ne citer qu'eux, se mettent en conformité dans le cadre de le marquage CE et attaquent d'autres pays. Mais les Européens,
d'autres pays. Ils,
absolument.
Ils se mettent, la Chine, la Turquie ou l'Égypte voilà. se mettent aux normes de l'Europe et viennent avec ces produits aux exact. Normes européennes sur des marchés tels que le marché marocain. C'est ça
absolument.
Qu'il faut comprendre. Dans
absolument.
Vos
propos. Donc nous, si nous allons nous aligner sur les normes CE, nous serons désavantagés. Pourquoi ? Parce que les Européens, dans la norme CE, ne mettent que le minimum. Il y a d'autres normes de contrôle, il y a d'autres lois qui sont dans les codes de construction ou qui sont dans des compléments législatifs, qui leur permettent de mieux cerner non seulement ces produits, mais leur utilisation, chose que nous n'avons pas ici. Mais pour revenir au marquage, c'est un début, ou en tout cas un aboutissement formidable sur le marché national, parce qu'enfin, on va pouvoir tracer. C'est ça le problème, c'est d'avoir une traçabilité.
L'enjeu, c'est la traçabilité, c'est de savoir d'où vient ce produit, qui l'a fabriqué, par quoi il est passé.
Absolument. Donc,
quels matériaux l'ont constitué.
Absolument. Et il y a un référentiel. Donc ce référentiel va permettre de remonter à celui qui l'a vendu ou qui l'a importé ou qui l'a produit et lui dire « Monsieur, vous n'êtes pas en conformité avec ce que vous avez oui. déclaré ou ce que vous avez
Alors,
dit. »
Alors, on reviendra à vous pour voir aussi ce que prévoit cette loi et comment vous, dans le secteur des matériaux de construction, vous êtes en train de mettre ça en place. Je rappelle, David Toledano, que vous êtes le président de la Fédération des matériaux de construction. Question de la part de Ptissem Benchina Davieko.
Monsieur le Rolfi, j'ai une question par rapport à ça, par rapport à la profession. Comment il compte se préparer pour l'application de cette loi ? Est-ce que ça va être appliqué filière par filière ? Quel type de laboratoire va permettre de faciliter l'application de cette loi, etc.
Est-ce que vos associations sont déjà mobilisées ?
Oui, depuis longtemps. Nous sommes mobilisés depuis longtemps. Je voudrais juste, pour que nos amis auditeurs comprennent bien l'enjeu, de dire que chaque secteur est concerné. Aujourd'hui, vous avez le secteur du jouet qui pose problème. Donc, il ne faut plus accepter n'importe quel jouet. Et on commence à se dire qu'il y a des jouets ouais. qui peuvent être nocifs et qui peuvent avoir des conséquences graves sur la vie des bébés ou des enfants qui les utilisent.
Bien sûr.
La même chose au niveau de la basse tension. Donc, on a à rentrer dans tout ce qui concerne la basse tension parce qu'il y va de la vie des gens.
Basse tension, donc, pour les auditeurs, je veux dire, si j'achète un chargeur de téléphone chez un fracha, je prends des risques ne sachant pas d'où il vient.
Absolument. Et en plus, vous savez qu'un produit d'origine ne va pas coûter 20 dirhams ou 25
ouais,
dirhams.
Bien sûr.
Donc, il ne faut pas aller mettre votre vie
ouais,
en péril.
Mais parfois, le pouvoir d'achat ne permet pas non plus.
Ouais, le problème, c'est que, comme on dit, il faut choisir, comme disait le proverbe. On ne peut pas, celui qui ne peut pas avoir quelque chose, il vaut mieux s'abstenir que d'aller mettre en péril sa vie ou
celle
de
des autres, bien sûr. Alors, les images les plus criantes, c'est celles qu'on voit pour certains produits qu'on met dans les véhicules qui ne sont pas des plaquettes de frein, des pièces automobiles qui ne sont pas des vraies. Qui ne sont pas des vraies, ce n'est pas un problème, mais qui ne répondent pas aux normes, qui ne respectent pas les normes. C'est ça la difficulté.
Vous pouvez ajouter aussi les pare-brises. Nous avons, par exemple, dans nos centres techniques, des tests pour contrôler le pare-brise. On fait tomber une boule en acier de 4 kg d'une certaine hauteur sur un pare-brise. Et on vérifie que le pare-brise ne s'éclate pas, ne part pas en mille morceaux. Oui, parce que là,
c'est dangereux.
Donc, on teste les pare-brises et on a eu à arrêter plusieurs importations qui n'étaient pas en conformité. Donc, pour revenir un petit peu à nos produits, nous avons toutes ces utilisations, nous les avons depuis le sable, qui doit être normé, malgré tout ce qu'on peut dire, parce qu'il y a une granulométrie, il y a une utilisation, etc., jusqu'à l'étanchéité, jusqu'au produit fini, je parle du sanitaire, des carreaux, etc., etc. Donc aujourd'hui, toutes nos associations ont travaillé sur la normalisation et le référentiel par rapport à ce qui existe de mieux à travers le monde. Mmh. Je vous donne un exemple. Si vous utilisez un lavabo qui est importé ou qui est fabriqué au Maroc, vous ne pouvez pas utiliser n'importe quoi. Le lavabo doit être testé pour supporter une charge de 150 kg ou de 120 kg, de façon à ce que si quelqu'un s'appuie et qu'il y a une rupture du lavabo, qui va devenir tranchant comme un verre parce qu'il est émaillé, et bien qu'il n'y ait pas d'accident mortel ou qu'il n'y ait pas d'accident grave. La même chose pour les cuvettes de toilette, la même chose pour les carreaux, qui peuvent être dérapants, ou vous utilisez des carreaux qui ne sont pas antidérapants sur un endroit public, et dès qu'il y a un peu d'eau, eh ben vous allez voir
des gens qui
vont glisser, qui vont tomber, qui vont se casser, et qui vont avoir des conséquences. Alors ça, c'est les plus visibles. Maintenant, il y a tout ce qui est structurel, c'est-à-dire les bétons, les aciers qui sont utilisés, les gravettes et les gravillons qui sont utilisés avec leur granulométrie. Donc tout cela, et c'est un travail qui a été fait, certaines normes aujourd'hui sont d'aspect obligatoire et on a réussi à travers des décrets de mettre leur application, de la rendre obligatoire. D'autres ne le sont pas et nous travaillons sur les deux parties. Alors la discussion que nous avons aujourd'hui avec le ministère, avec qui nous travaillons main dans la main dans ce dossier qui est complexe et qui est difficile à mettre en place, parce qu'il y a le revers de la médaille, c'est-à-dire que si vous êtes défaillant, ben, il y a des pénalités qui peuvent être extrêmement graves, non seulement financièrement, mais aussi pénalement. Parce qu'il y a des peines de prison qui peuvent aller jusqu'à 3 ans, 4 ans, 5 ans de prison s'il y a la vie d'autrui qui est mise
en danger, bien sûr. L'objectif, rappelons-le, de tout ça, c'est de rassurer le consommateur
et puis d'utiliser des produits qu'on peut utiliser en toute sécurité et en toute façon. Donc, ce travail a déjà été entrepris. Nous continuons aujourd'hui à le faire et nous espérons que cette loi, sa mise en application, va améliorer d'autres secteurs comme la brique, comme le parpaing en béton.
David Toledano, quelles sont les prochaines étapes dans la mise en œuvre de cette loi et pour arriver au marquage, pour que le consommateur voit le CMIM?
Alors, c'est de sortir les arrêtés, c'est de se mettre d'accord sur le minima que les producteurs et le ministère peuvent accepter ensemble, pour dire, on va lancer ce marquage pour tel ou tel produit. Et celui qui le produit doit assumer une responsabilité à minima.
Alors, c'est responsabilité minima du producteur, mais responsabilité aussi du laboratoire qui certifie.
Oui.
Je reparle des prochaines étapes. On imagine ça quoi au courant de cette année, début d'année prochaine?
Nous espérons, Inch'Allah, cette année, nous espérons...
Commencer par certaines activités aussi.
Il y a certaines activités qui sont couvertes. Les laboratoires existent. Mm-hmm. On peut les développer. Mais aujourd'hui, on a ces compétences et ces possibilités. Le système a été mis en place, c'est-à-dire... On a mis en place l'Imanor, on a mis en place une association marocaine de la qualité, on a mis en place des contrôles, on a mis en place des certificateurs et des laboratoires agréés. Donc aujourd'hui, il faut coordonner entre tous ces intervenants et puis démarrer.
Allez, petit Samchina, la vie éco.
Est-ce que Cité La Danos, la mise en place de ce marquage, va constituer un surcoût pour la production qui va être forcément répercuté sur le prix final à la vente?
Alors, je dis toujours, la qualité et ce genre de choses, au contraire, c'est l'inverse du surcoût. Lorsque vous faites des produits que vous ne pouvez pas vendre, c'est une perte totale du produit. Donc vous perdez la matière première, vous perdez les heures de travail,
le coût de votre actif.
Donc plus vous allez vous appliquer à produire convenablement et à réussir, comme je dis entre guillemets, à augmenter le taux de rendement de votre production, de votre unité de production, plus vous êtes gagnant. Donc lorsque vous avez un référentiel précis auquel on vous dit, monsieur, vous devez respecter ci, ça, ça, ça et ça. Donc aujourd'hui, vous donnez déjà des directives à vos équipes qui doivent les respecter. Et de ce fait, c'est une très bonne chose et ce ne sera pas un surcoût.
Toute dernière question de la partie Saint-Benchino.
In fine, monsieur Teledano, ce marquage va aussi bien contribuer à réduire l'informel au niveau national qu'à réduire un peu les importations pour un peu juguler la surproduction.
Certainement, assainir le marché, réduire, je ne sais pas. Mais en tout cas, je ne pense pas que les importations diminueront. Et je tiens à dire, contrairement à ce qui a pu être écrit récemment, il n'y aura pas une diminution des contrôles des importations. Les importations, les produits importés
continueront à contrôler de la même manière.
Absolument, continueront à être contrôlés de la même façon. Mieux encore. Et il n'y aura pas d'échappatoire, c'est-à-dire que si moi, consommateur, achète un produit et que ce produit a un vice et je me tourne vers l'autorité pour demander une compensation, au contraire, j'ai les moyens de le faire. Et j'ai cette traçabilité. Maintenant, en ce qui concerne l'informel, c'est vrai que tous les produits qui seront mis sur place et qui seront mis sur le marché seront marqués. Donc, ça peut continuer dans l'informel, mais en tout cas, il y aura une traçabilité qui permettra, grâce à cette loi, tirer vers le haut le comportement des consommateurs en leur donnant une plus grande confiance et en mettant en face d'eux des produits qui répondent à un niveau de qualité et d'exigence sécuritaire qui sont importants.
Merci beaucoup, David Toledano. Je rappelle que vous êtes le président de la Fédération des matériaux de construction. On va conclure ce libre-échange cette semaine par deux infos, un flop et un top. Et on va commencer par le flop, c'est le CIH qui annonce sur la base du premier trimestre 2019 un résultat net de 115,9 millions de dirhams en baisse de 15,6% par rapport à la même période de l'exercice précédent. Il faut dire que le produit net bancaire est de 518 millions de dirhams, en progression, lui, de 6,4% par rapport à mars de l'année dernière. C'est ce qu'indique donc la banque à l'issue de son conseil d'administration. Les ressources clientèles sont établies à 34,8 milliards de dirhams, en hausse de 14,7% par rapport au premier trimestre 2018. Pour ce qui est des risques, et c'est là le sujet, le CIH a affirmé avoir fait un effort particulier afin de les couvrir au plus tôt de l'année 2019, ce qui explique cette baisse du résultat, précisant que le coût du risque s'établit à 88 millions de dirhams en progression par rapport à fin mars 2018 où il s'affichait à 57 millions de dirhams. Et bien, projeté à la fin de l'année 2019, le coût du risque devrait, selon le conseil d'administration, la direction qui a fait ce communiqué, être inférieur au niveau enregistré à fin 2018, donc à suivre jusqu'à la fin de l'année. On va finir par un top et un coup de chapeau aux douaniers du Maroc, puisque les recettes douanières dépassent la barre des 100 milliards de dirhams en 2018. Les recettes douanières ont donc réalisé l'année dernière une progression de 6,4% par rapport à l'exercice précédent, franchissant ainsi pour la première fois le cap des 100 milliards de dirhams et s'établit exactement à 100,8 milliards de dirhams. Une performance que l'administration des douanes et impôts directs explique par, je cite, une évolution remarquable des importations. Alors, elle est rassurée parce que les importations sont plus nombreuses et en volume et en valeur. Mais il faut dire que ce n'est pas bon pour nos industriels parce que plus on importe, moins on consomme du produit national. Mais il faut dire en ce qui concerne le communiqué de la douane que les recettes douanières budgétaires se sont établies à 94,5 milliards de dirhams, enregistrant également une progression de 6,4%. À noter que la TVA représente la part la plus importante de ces recettes douanières, soit 58%, suivie de la taxe intérieure de consommation à 30%, des droits d'importation à 10% et de la redevance du gazoduc à 2%. Je vous retrouve même heure la semaine prochaine pendant ce mois du Ramadan avec autant de plaisir. C'est sur Aswat que vous savez où vous me retrouvez. C'est pour moi, ça sera un vrai plaisir. À la semaine prochaine.